BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira.
Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver au programme de notre émission. Cette semaine, les Français vont-ils faire l'impasse sur le chocolat de luxe pour Pâques? On va en parler dans un instant avec Jeanne Guillet, CEO de Marcolini, la haute couture du chocolat. Les marques qui ont investi la gastronomie et la pâtisserie, ce sera le thème du focus de notre experte cette semaine. Et cette semaine, notre experte, ce sera Laure Barion, consultante d'Altavia Native. Et puis les chocolats n'échappent pas à l'inflation. Quels sont les prix des produits qu'on trouve en grande distribution et les prix des chocolatiers? Eva Jaco, notre journaliste, a mené son enquête. Et enfin, pour finir, peut-on allier chocolat et bien-être? Ce sera le thème de notre start-up cette semaine. On recevra Monique Foy, cofondatrice de Cosmic Dealer, des chocolats inspirés de l'Ayurveda. Mais avant cela, on reçoit notre première invitée, Focus Retail. C'est parti.
Focus Retail, l'interview.
Autour de ce plateau, j'ai le plaisir d'accueillir Laure Barion. Bonjour.
Bonjour Noé.
Vous êtes consultante d'Altavia Native et à mes côtés également Jeanne Guillet. Bonjour. Vous êtes CEO de Marcolini qui a reçu le prix du meilleur pâtissier du monde il y a un peu plus de 2 ans. Bienvenue sur notre plateau. Alors on le dit souvent, Pierre Marcolini, c'est la haute couture du chocolat. Justement, en parlant de chocolatier haute couture, est-ce que ce chocolat peut être apprécié par tout le monde? Je ne parle pas forcément du prix, mais est-ce que cette haute qualité du chocolat, elle peut plaire à tout le monde, ou est-ce que c'est un tel niveau que certains consommateurs ne l'apprécient plus ou pas? Je veux dire qu'on trouve plein de chocolat au lait aujourd'hui. Il faut s'habituer à ce chocolat à fort pourcentage de cacao, bean to bar. Est-ce que ce chocolatier de luxe, il est réservé à une élite, à des connaisseurs?
Alors non, pas du tout. En fait, on est sur un produit de plaisir, le chocolat. Donc on a des collections qui sont autour de produits type praliné, des truffes, etc. Alors bien sûr, on a toute l'expression des grands crus qui nous permet de montrer le savoir-faire autour du bean to bar. Mais que ce soit des enfants ou des connaisseurs, tout le monde va pouvoir trouver des collections qu'ils vont apprécier et savourer.
Alors on le rappelle, un bean to bar, c'est de la fève à la tablette. Alors la tablette, elle est à 9 euros pour seulement 9 carrés de chocolat. Comment on explique cette différence par rapport aux produits de grande surface?
Alors on est effectivement un chocolatier bean to bar, donc c'est notre philosophie, c'est notre ADN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on travaille les fèves et on les torréfie, on les transforme en chocolat. Tout ce travail-là, c'est un travail d'artisanat. Aujourd'hui, on a 70 artisans qui travaillent ces produits. Ça veut dire aussi qu'on source des fèves de qualité extraordinaire, avec une variété extrêmement riche. Peu de gens le savent, mais dans le monde du chocolat, en fait, on a différents types de terroirs, comme on peut avoir différents types de terroirs dans le vin, et ça va avoir ça va donner des chocolats qui vont avoir des goûts différents, des propriétés organoleptiques différentes. Et donc c'est ça qu'on aime à montrer à nos clients. Et effectivement, ce sont des produits qu'on va, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est des fèves qu'on va sourcer nous-mêmes et qu'on va payer en général entre 3 et 4 fois le prix du chocolat de base, on va dire. Donc c'est vrai que ça crée un produit qui reste à un prix assez fort, mais qui reste assez accessible d'une certaine façon, parce qu'on dit de luxe, mais c'est un produit qu'on peut s'offrir si on veut s'offrir un plaisir et une expérience de dégustation.
Mais donc effectivement, vous êtes déjà sur un prix de matière première qui est plus élevé que la normale. À minima, dans les 18 derniers mois, l'augmentation du prix des matières premières, sans même parler du prix de l'énergie pour transformer, ça a eu un impact massif sur la plupart des industries agroalimentaires et sur les coûts. Comment vous l'avez vécu, vous?
Comme un peu toutes les entreprises dans cette industrie, on a regardé comment le coût des matières premières évoluait. Donc, comme vous le dites, effectivement, certaines matières premières food et non-food ont eu une inflation importante. D'autres source de... Sur le transport, par exemple, on a vu qu'il y a eu une inflation très importante au début, mais qui s'est régulée. Voilà, on suit ça pour faire en sorte de conserver un business model qui est efficace. Mais c'est vrai que ça a eu un impact important pour une entreprise comme la nôtre.
Est-ce que vous pensez que les Français y comprennent cette augmentation? Est-ce qu'ils vont faire l'impasse sur les chocolats cette année ou peut-être refuser d'acheter des chocolats haut de gamme pour économiser?
Bah écoutez, c'est pas ce qu'on observe. Je pense que cette inflation-là, elle s'est ressentie sur l'ensemble des produits. Après, nous, on est à nouveau un produit de plaisir. On n'est pas un produit de première nécessité. Donc, c'est vraiment un achat plaisir. On a vécu une très belle saison à Noël et on s'attend à une très belle saison pour Pâques.
Donc là, vous êtes confiante pour la collection de Pâques
oui.
que vous avez amenée d'ailleurs aujourd'hui.
Oui, voilà.
Vous pouvez nous la présenter. D'où proviennent ces fèves de cacao?
Alors, on a différentes origines. On travaille avec des planteurs qui sont à Cuba, à Sao Tomé, à Madagascar, etc. Là, vous avez des produits qui sont plus, si vous voulez, à destination d'un public jeune, puisque ce sont des petits œufs de Pâques, des œufs ici, qui sont à suspendre pour une chasse aux œufs dans le jardin ou dans l'appartement. Ce sont des œufs qu'on a travaillé de manière, vous en parliez tout à l'heure, assez avec des goûts assez consensuels. On est sur du praliné, on est sur de la noisette, on est sur du riz soufflé. Voilà.
C'est vrai que tout est très nature, hein. C'est un marketing aussi bien réfléchi pour correspondre aussi à ce côté responsable.
Oui, à nouveau, c'est l'ADN de la maison. On n'est pas sur une stratégie marketing, c'est-à-dire que c'est la façon dont on travaille nos produits qui est comme ça. Donc oui, tout est naturel. On travaille avec ces fèves qu'on source nous-mêmes, mais aussi avec des noisettes qu'on source nous-mêmes. On était récemment à Madagascar pour parler avec des planteurs de vanille. Après, tous ces produits-là arrivent à l'atelier. Ensuite, nos artisans les travaillent à la main. Gratte la vanille à la main. Donc oui, tout ce processus est assez artisanal et a du sens pour nous et pour nos clients parce que voilà, ça donne une expérience de dégustation qui est assez exceptionnelle.
Alors côté transport, le chocolat a un impact puisqu'il provient de pays lointains. Vous avez réduit la production de CO2 de 37 tonnes par an. Depuis quand ce changement est-il effectif et comment cette réduction a-t-elle pu atteindre? Est-ce que vous avez continué cette progression?
Alors bon, je dirais que c'est une démarche qui est assez globale. À l'atelier, un certain nombre d'efforts ont été fournis. Je vous donne des exemples simples, mais le fait d'avoir installé des panneaux solaires sur l'ensemble de notre atelier nous a permis aussi de diminuer notre consommation énergétique, de travailler sur des plans de transport qui soient durables et qui privilégient évidemment le transport maritime versus du transport aérien, etc., etc.
Mais est-ce que vous continuez à économiser ces tonnes de CO2 chaque année? Est-ce que vous allez plus loin?
C'est une démarche qui est, je dirais, une démarche sur un temps long. Donc oui, on le travaille de cette façon-là. C'est important pour nous, c'est important pour nos clients. On est allé relocaliser le sourcing, par exemple, de nos boîtes pour les faire, les produire au plus près de l'atelier. Voilà, toute cette démarche-là, c'est un travail continu. Je peux pas on peut pas se dire c'est bon, ça y est, c'est fait. Chaque étape est importante.
C'est un travail constant.
C'est un travail de longue haleine.
Jeanne Guay, vous étiez avant CEO des activités asiatiques du chocolatier. Quels sont les potentiels de croissance en Asie? Quels sont les pays les plus concernés? Le Japon, la Chine, la Corée du Sud, Taïwan, Hong Kong. Est-ce que parce que ce sont des pays qui ne sont pas foncièrement consommateurs de chocolat à la base de leur culture, est-ce qu'on peut les éduquer, les amener plus facilement à apprécier ce chocolat haut de gamme?
Alors, le Japon est un pays qui consomme beaucoup de chocolat. C'est un pays dans lequel...
Vous avez ouvert votre première boutique au Japon très tôt, hein, je crois.
Voilà, on y est présent depuis une vingtaine d'années, à Tokyo principalement, à Nagoya. Et on a des projets d'ouverture dans ce pays. C'est vrai que c'était un pays qui n'avait pas dans sa culture le goût pour le chocolat, mais qui avait un goût pour à la fois les produits sweet, mais également pour des maisons comme la nôtre avec une expérience très fine, très sophistiquée, gastronomique. Donc c'est un pays dans lequel on s'est implanté très tôt et dans lequel on voit beaucoup de perspectives. On est également présent sur le marché chinois continental, donc dans un certain nombre de villes, commençant par Shanghai, Pékin et Chengdu par exemple. Et on regarde d'autres débouchés en Asie. Vous avez mentionné Taïwan, Hong Kong, ça fait partie des zones qui nous intéressent beaucoup, la Corée, Singapour, etc. Donc oui, on est une maison avec une implantation en Asie assez forte parce qu'on trouve une clientèle qui a de l'appétit pour ces produits de manière différente, mais ce sont des marchés qui nous intéressent.
La maison Marcolini travaille régulièrement avec des artistes, des créateurs, Saint-Laurent, Olympia Létane ou encore Victoria Beckham. Comment se choisissent ces artistes, ces créateurs? Ces collaborations se font-elles d'abord sur les convictions partagées ou plus sur la notoriété du créateur, de l'artiste?
Non, c'est souvent des rencontres, des coups de cœur respectifs, des envies. Donc, à nouveau, je dirais pas que ce sont des stratégies très sophistiquées. C'est plutôt vraiment un coup de cœur pour une maison, pour un designer, pour un indépendant avec lequel on va vouloir travailler et mettre en valeur son travail d'une façon différente, dans une exécution différente. C'est toujours assez passionnant. Donc, voilà, ce sont souvent des petites maisons ou des maisons qui partagent des mêmes valeurs qui nous sont chères.
Ouais, ces collaborations entre des marques de différents univers, on en parlera tout à l'heure dans votre focus, Laure Barillon. Merci beaucoup, Jeanne Guillet. Je rappelle que vous êtes CEO de Marcolini, donc, qui a réalisé un chiffre d'affaires de 50 millions d'euros. On passe tout de suite au journal du retail avec Eva Jaco.
Focus Retail, le journal du retail.
En cette période de Pâques, le chocolat n'échappe pas à l'inflation. Tour d'horizon dans les chocolateries et les grandes surfaces avec vous, Eva. Bonjour.
Bonjour, Naomi.
Mais avant cela, combien dépensent les Français pendant la période de Pâques?
Eh bien, nous sommes sur une moyenne d'environ 20 euros par foyer dépensé pour les chocolats de Pâques. À savoir que Pâques reste toujours un temps fort avec Noël et représente un marché de 276 millions d'euros. Cela représente à peu près 8% des ventes de chocolat sur l'année en grande et moyenne surface. Et c'est cette semaine précisément qu'ont eu lieu 40% des ventes des chocolats de Pâques.
Est-ce qu'on constate une hausse significative des prix des chocolats en cette période d'inflation ?
Eh bien, on note une hausse modérée des prix des chocolats de Pâques qui ont augmenté de 5,4% en GMS. En comparaison, les prix des produits de grande consommation, eux, ont bondi de 13% selon Gilles Rouvière, le secrétaire général du syndicat du chocolat qui réunit 64 adhérents. En cause, bien sûr, l'augmentation des coûts de production. Les lapins et œufs en chocolat sont composés de matières premières dont les prix ont explosé, notamment le coût du sucre qui a bondi de 76% et le cacao de 10%, sans oublier bien sûr la poudre de lait ou encore les matières grasses comme le beurre. Le prix des emballages également, comme le carton, a augmenté de 30% et bien sûr le gaz et l'électricité de 150%.
Comment se portent les principaux acteurs de ce marché, les industriels et les chocolatiers? Répercutent-ils ces coûts sur leurs produits?
Eh bien, on recense en effet des hausses sur le prix des produits de marques nationales comme Lindt, Kinder, Ferrero, C'est moi, qui sont qui représentent 95% du marché en GMS. Mais les industriels prennent en grande partie sur leur marge. Les prix des chocolats de Pâques sont négociés bien en amont, notamment pendant la période de Noël où l'inflation était un peu moins élevée. On note cependant une augmentation d'à peu près 5% sur les prix de certains produits. Par exemple, un lapin en chocolat de 200 grammes d'une marque bien connue se vend à environ 5,89 euros dans les supermarchés en mars. Et c'est 5% de plus qu'en mars 2022, selon le cabinet Nielsen. Ou encore le prix d'un paquet d'œufs en chocolat d'une autre grande marque a augmenté, lui, de 6% en un an. Il se vend à peu près à 3,19 euros. Du côté des autres chocolatiers, certains acteurs, comme le chocolat des Français, a fait, lui, un effort sur le packaging pour économiser de l'argent. D'autres chocolatiers ont quant à eux réduit le grammage de leur paquet de chocolat pour ne pas augmenter le prix de leur paquet de chocolat.
Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Eva Jacquot. Dans un instant, on passe au focus avec Laure Barion.
Focus Retail, le focus.
Depuis plusieurs années, des marques ajoutent une nouvelle corde à leur arc, des maisons de luxe, des marques de mode qui se lancent dans l'aventure culinaire. L'engouement des consommateurs pour ces expériences de marque est de plus en plus grand, Laure.
Oui, absolument, Noémie. Effectivement, c'est un principe de collaboration qui touche de nombreux secteurs. Alors, effectivement, on peut parler de L'Occitane, par exemple, qui en 2017 a ouvert un grand concept store sur les Champs-Élysées en partenariat avec le chocolatier Pierre Hermé, par exemple. Et l'idée, c'est vraiment d'ouvrir un lieu qui réunisse les consommateurs autour du plaisir, des sens, du et des parfums à soi et pour les autres.
Ces marques se positionnent-elles toujours sur le segment de la gastronomie ?
Alors, en tout cas, en ce qui concerne les marques de luxe, c'est vrai que le fait de pouvoir proposer et aller vers des lieux qui soient des lieux de dégustation, que ce soit des cafés ou des restaurants, finalement, ça fonctionne bien avec le fait d'inciter les consommateurs à aller dans un magasin, dans un lieu, à une heure où finalement c'est toujours facile de faire des achats en ligne. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir proposer une expérience qui soit une expérience complète. Je pense par exemple au café Louis Vuitton, le LV Dream, qui a ouvert il y a quelques temps en partenariat avec le pâtissier chocolatier du Cheval Blanc, donc encore une grande maison. Et là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une collection de chocolats estampillés Louis Vuitton, par exemple.
Comment on explique cette diversification ?
Alors, je pense qu'on peut l'expliquer déjà parce qu'effectivement, le maître mot, c'est l'expérience. C'est la question du retail physique et donc d'augmenter toute la richesse de ce qu'on peut venir y faire. Et après, de façon aussi plus prosaïque, il y a aussi le fait que souvent, ces maisons qui sont des maisons de luxe investissent des lieux qui sont chers. On parlait de l'avenue Montaigne, on parlait des Champs-Élysées. C'est aussi une façon de mutualiser les coûts et l'exposition.
Ça touche tous les univers de luxe ?
Alors, ça touche beaucoup le luxe, mais ce principe de collaboration, on peut penser à Monoprix, par exemple, il y a quelques années, qui avait été précurseur en lançant des principes de collection de capsules avec des designers art de la table ou art de la maison qu'on attend. Alors, c'est assez citadin, mais c'est vrai que ces collections chez Monoprix, on peut les attendre. Donc non, dans cet exemple-là, par exemple, c'est plus démocratique.
Ça reste toujours très exclusif. On a pu voir aussi Lidl qui a fait des baskets.
Alors bien sûr, il faut distinguer le principe des collaborations et puis le principe des licences, le principe des labels. De toute façon, l'idée, c'est vraiment de remettre au centre une communauté de valeurs. Donc pour Lidl, ça va être, on va dire, le cool décontracté accessible, là où Vuitton, Montaigne, on va vraiment être sur de l'exclusivité.
Lidl qui a aussi fait une mini récemment, donc là c'est plus
absolument
haut de gamme.
C'est en plus haut de gamme. C'est souvent un principe de monter en gamme de toute façon.
Merci Laure Barion. À suivre tout de suite la start-up, une dealeuse de bien-être.
Focus Retail, le pitch.
Des chocolats bien-être, on en parle aujourd'hui avec vous, Monique Foy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cofondatrice de Cosmic Dealer, une start-up fondée en 2020. Vos produits sont basés sur le principe de l'Ayurveda. Vous parlez même de chocolat chakra, ça veut dire quoi ? Il y a une sensation de bien-être une fois qu'on a mangé un carré de chocolat.
Tout à fait. Nous, les trois piliers de bien-être qu'on va travailler chez Cosmic Dealer, c'est le moins de sucre, plus de plantes, et ce qu'on appelle « higher vibes », les vibrations plus hautes, qui fait référence à notre sourcing. Notre produit phare, c'est des encas de chocolat noir fourrés de purée de fruits secs avec moins de 2 grammes de sucre de date par chocolat. Donc ça représente 80% moins de sucre qu'un bar à chocolat classique qu'on va trouver au supermarché. Et non seulement on est sur le bio, le vegan, une liste d'ingrédients très court et entièrement naturel. Donc là, par exemple, dans ce chocolat que vous avez dans la main, il n'y a que 4 ingrédients.
On va le goûter d'ailleurs.
4 ingrédients par rapport à 16 à 18 ingrédients d'un bar de chocolat classique. Donc on est sur quelque chose de très puriste. Oui, c'est un produit bien-être. En même temps, c'est très gourmand. Et les clients, ils viennent chez nous parce qu'ils sont gourmands, parce qu'ils ne veulent pas se priver de leur moment de plaisir, de goûter, de dessert. Mais ils ont envie de manger mieux, plus sainement, ou même activement réduire la consommation de sucre. Et ça, c'est vraiment notre mission en fait, chez Cosmic Dealer. C'est comment rendre les habitudes quotidiennes comme ça plus saines. Donc, on travaille le chocolat, mais également l'été et bientôt les alternatives au café. Parce que finalement, si on peut optimiser que ces trois produits-là, aux durées d'une vie, qu'on consomme beaucoup en fait, ça peut avoir un réel impact sur notre bien-être.
Pourquoi utiliser le vocabulaire qui appartient à la spiritualité, à l'Ayurveda, qui est une médecine traditionnelle d'origine indienne qui a pour ambition d'équilibrer le corps et l'esprit? Est-ce qu'on ne parle pas dans ce cas plutôt de chocolat diététique qui ont moins de sucre? Pourquoi utiliser ces termes? C'est un élément marketing?
Moi, je suis une passionnée de l'Ayurveda. Je suis formée là-dedans. Je suis aussi prof de yoga, coach de respiration. Donc, c'est un univers qui me passionne. Et je crois fondamentalement ce qu'il faut et ce qui manque dans notre alimentation aujourd'hui, c'est plus de conscience, c'est plus d'intention. Et donc, nous, au lieu de créer une recette comme ça en disant, OK, on va faire une recette à la base de caramel, nous, on a un départ d'intention énergétique. Donc, je vais dire, mon inspiration pour notre prochaine chocolat, ça va être l'amour. Comment revendiquer, comment représenter, comment avoir une intention de l'amour à travers une recette? Ben, en fait, le couleur de chakra de l'amour, c'est du vert. Donc, je vais chercher un thé vert, matcha, émeraude, pour représenter ça. Parce que je pense que c'est ce manque de conscience, c'est cette, qui nous manque, en fait, dans l'alimentaire. Aujourd'hui, on est trop dans l'automatique, on est trop dans l'industriel, où on n'y pense pas, en fait, ce qui est dans notre alimentation.
Je viens de goûter, hein. Je ne sais pas si vous avez goûté, Laure, hein, mais c'est plutôt pas mal. C'est du sucre de date. Combien ça coûte, ces carrés de chocolat?
C'est 2,90 € si on achète sur notre site en vrac. Et si on achète à l'unité en retail, ça va être plutôt vers les 3,40 €. Et oui, il y a du sucre de date, donc on utilise du sucre non raffiné. Mais c'est moins ça le point. En fait, le point clé, c'est qu'il y a moins de 2 grammes de sucre de date dans chacun cas. Donc, on peut trouver plein de choses avec du sucre non raffiné, mais si à la fin, il est quand même bourré de sucre, on perd quand même le côté bien-être. Donc, nous, ce qu'on revendique, c'est vraiment cette faible teneur en sucre à la fin. Et surtout pas, on ne va pas remplacer ça avec des édulcorants ou les faux sucres artificiels.
Alors moi, la question qui me vient, c'est que vous parlez de consommation plus consciente, plus responsable, plus bien-être. Et c'est vrai qu'assez spontanément, parfois, on peut aussi se dire, le chocolat, c'est régressif. Le chocolat, c'est Pâques. Le chocolat, c'est trop gras. Mais c'est pour ça qu'on aime ça. Comment vous gérez ça?
Nous, ce qu'on veut vraiment faire, c'est lier quand même le plaisir, le gourmandise, à quelque chose qui est mieux pour nous. Donc certes, on n'est pas en train de vendre le top du top, ça serait de vendre que des fèves de cacao cru et basta. Mais on sait que le chemin entre le Milka et le fèves de cacao cru, il est long. Donc on essaye d'amener quelqu'un sur un chemin en commençant avec quelque chose de plus gourmand, qui est quand même des purées de fruits secs. Ils sont bons, hein, mais ils ne sont pas du tout mauvais pour la santé. Justement, on a enlevé les additifs, on a enlevé les sucres et les choses artificielles, les conservateurs, etc., pour garder que l'essentiel. Et je pense que voilà, notre clientèle, il
ça fonctionne
aussi gourmande. Ouais,
c'est intéressant parce que c'est du chocolat noir, mais en même temps, c'est adouci par ses dates. Et on sent bien aussi le peanut butter. C'est vrai que je ne m'attendais pas du tout à ça. Je pensais qu'on sortait beaucoup plus les plantes. Alors, la marque, elle est présente dans 17 pays, déjà 300 enseignes, seulement 2 ans après votre création. Ce ne sont pas des supermarchés forcément ou des épiceries. On vous retrouve par exemple chez Oh My Cream, qui est spécialiste de la clean beauty. Quelle est la part des ventes, quelle part de vos ventes représente ce type d'établissement? Parce que les consommatrices, finalement, elles y vont en premier lieu pour acheter un soin de beauté. Donc vous représentez des achats, vous représentez un achat complémentaire?
Oui, alors on était le premier marque de chocolat disponible dans ces rayons de beauté plutôt que l'épicerie. Donc on a un peu créé cette catégorie de chocolat mieux pour soi dans ces enseignes, et ça représente aujourd'hui à peu près 60% de notre chiffre d'affaires. Mais ce qu'on a constaté, c'est que cette année, un de nos objectifs, c'est de rentrer plus dans l'alimentaire pur, parce que en fait, on a constaté que ça marche très très bien. On vient de rentrer dans un supermarché, et en 3 mois, c'est un supermarché quand même de premium, spécialisé dans le bio. En 3 mois, on est le 3e marque parmi toutes les marques de supermarché, et le 1er marque en chocolat.
Moi, qui sait, peut-être que Cosmic Dealer sera peut-être le futur Goop à la française, parce que c'est vrai que le marché du wellness a cartonné aux États-Unis. Est-ce que vous pensez que...
Bah, Oui, vous avez parlé tout à l'heure du luxe. Je pense qu'on est bien conscient, le bien-être, c'est une forme de nouveau luxe. Et on se réalise tous, surtout depuis le pandémie, que c'est quelque chose qui est, voilà. Il faut mettre notre focus dedans, il faut être plus conscient et surtout, il faut manger moins de sucre.
On rappelle que ce n'est pas prouvé scientifiquement quand même, mais c'est très bon. Voilà, on peut le goûter. Donc, Monique Foy, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes cofondatrice de Cosmic Dealer. On passe tout de suite aux chiffres de la semaine.
Focus Retail, le chiffre de la semaine.
Les Français aiment l'art de la table, l'or, et ils sont de plus en plus nombreux à vouloir manger sainement.
Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, 50% des Français, 49%, la moitié, disent qu'aujourd'hui, pour eux, bien manger, c'est avant tout une alimentation équilibrée, et ils placent ce critère devant le plaisir des sens ou même la convivialité.
C'est nouveau, cette attention à l'équilibre ?
Alors, ça pourrait paraître tomber sous le sens de se dire bien manger, c'est manger équilibré, mais pas tant que ça, puisque effectivement, c'est quand même le signe d'une transition dans la façon dont on perçoit le rôle de l'alimentation aujourd'hui. On en a parlé avec Cosmic Dealer tout à l'heure. Effectivement, 58% des Français considèrent qu'un produit de qualité, c'est un produit avant tout bon pour la santé, avant même le plaisir gustatif et le goût.
Comment on explique cette évolution ?
Alors, je pense qu'on peut l'expliquer déjà parce qu'il y a eu un vrai travail du côté des pouvoirs publics de didactique. On pense au Nutri-Score, on pense du coup à l'attrait des Français pour une application comme Yuka. C'est vrai qu'il y a de plus en plus de communication autour de la transparence des produits, de soins à soi, et même on essaye de plus en plus de contrôler son alimentation, comme on contrôle ses pas, comme on contrôle effectivement les calories que l'on peut à la fois consommer et on peut aussi dire que le Covid, clairement, a correspondu à un moment où on s'est beaucoup rétracté sur soi et sans parler de vigilance, en tout cas, on est plus attentif à ce qu'on mange et à comment on mange.
Bon, tout ça a un coût, non ?
Tout ça a presque un double coût, un coût financier, évidemment, et en témoignent les initiatives de nombreuses enseignes aujourd'hui de mettre en place des produits, des paniers notamment anti-inflation, y compris sur des produits sains, des produits du quotidien, mais ça a aussi un coût cognitif. Par exemple, aujourd'hui, trois quarts des Français entre 25 et 35 ans disent qu'ils ont besoin de plus d'informations pour savoir comment bien manger aujourd'hui.
Ouais, pas facile d'allier nourriture saine, écologique et économique. Le plus simple, c'est de cuisiner soi-même, finalement.
C'est de cuisiner soi-même. Et en tout cas, c'est sûr que c'est la porte ouverte pour les marques pour s'engouffrer dans ce travail de didactique et d'apprentissage auprès des consommateurs.
Merci, Laure Barillon, de m'avoir accompagnée lors de cette émission spéciale PAC. C'est la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site et l'application BFM Business à écouter en podcast également. Je vous retrouve lundi dans Good Morning Business.
Focus Retail, la distribution de demain s'invente aujourd'hui.